Avant de nous attaquer à cette fin de séminaire, et ce soir on va particulièrement parler du millénium et du paradis, j'aimerais juste resituer un peu rapidement et vous poser deux, trois questions, réviser un peu ce qu'on a vu. Sur quoi s'appuie notre système eschatologique? Il y a un passage dans la Bible qu'on a étudié il y a quelque temps, vous vous souvenez? Daniel, chapitre 9, voilà, on ne va pas mettre les versets, je ne vais pas non plus exagérer. Ce passage nous parle de, on va dire, au moins deux périodes particulières. La première, qui fait 69 semaines, soit 483 années, parle de quoi? À partir de 445 avant Jésus-Christ, jusqu'en 29, 30. C'est pas ce que j'attends. Qu'est-ce qui s'est passé en 29-30 après Jésus-Christ? La crucifixion de Jésus-Christ. Hein, et on a là une prophétie qui a été donnée par le Seigneur à Daniel et qui s'est accomplie de façon littérale. Hein. Et puis une deuxième période, il reste une semaine, soit 7 ans en septaine, hein, et qui ne s'est pas encore accomplie, mais qui va forcément s'accomplir de la même manière, de façon littérale. Quand on parle de cette dernière semaine, on a un autre nom, on voit ça dans l'Apocalypse ou ailleurs, on appelle ça la tribulation. Et donc, on avait vu hier un peu tous les événements qui se passent dans cette tribulation. Et une fois que cette tribulation sera achevée, ça sera par le retour de Jésus-Christ qui va faire cette fameuse bataille d'Armageddon et qui va remporter la victoire sur qui?
Le diable.
La bête, voilà. Hein, le diable a encore son petit projet en marche. Et la bête et le faux prophète sera jeté dans les temps de feu. Et après les jugements des nations et les jugements des juifs, une nouvelle ère va commencer. Et c'est ce que nous allons voir ce soir, ce fameux millénium. Je vais être très succinct dans ce qu'on va faire parce qu'on n'aurait pas le temps. Et vous savez, comme j'ai marqué au début, quand on parle du millénium, en fait, il y a des livres et des livres et on pourrait en parler pendant des semaines et des semaines. Donc j'ai été obligé d'être un peu succinct et de vous présenter trois positions qui parlent aujourd'hui de ce millénium. Et la première de ces positions, c'est le post-millénarisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Alors, une définition hein, dans votre cahier, c'est la conception des fins dernières selon laquelle le royaume de Dieu est actuellement en train de s'étendre dans le monde par la prédication de l'Évangile et l'œuvre salvatrice du Saint-Esprit dans le cœur des individus. Le monde sera finalement entièrement christianisé et le retour de Christ s'effectuera à la fin d'une longue période de justice et de paix, généralement appelée le millénium. La deuxième venue du Christ sera immédiatement suivie de la résurrection générale, du jugement général et de la pleine instauration du ciel et de l'enfer. En résumé, vous avez là un peu l'idée de ce que pensent les post-millénaristes. Ils imaginent que, parce que la société va de mieux en mieux, qu'on va à un moment atteindre un âge d'or, hein, dans la science, dans tous les domaines, médecine, etc. Et en même temps, ils pensent que parallèlement, le monde sera de plus en plus évangélisé, que, en fait, au moment où Jésus va revenir, il y aura plus de chrétiens que de non-croyants sur la terre. C'est le cas aujourd'hui? C'est plutôt l'effet inverse qui se passe aujourd'hui. Hein. Et donc cet âge or, on pourrait dire, oui, la science commence à avoir une espèce d'âge d'or, je ne sais pas s'il faut le voir comme cela, mais par contre, les chrétiens, eux, non, il y en a de moins en moins, ou de plus en plus de faux chrétiens, on pourrait dire, quelque part. Hein. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné ce système du post-millénarisme. Hein. D'autres, une espèce de dissidence ou de branche, on pourrait dire, du post-millénarisme, dit qu'il faut investir tous les postes clés. Il faut être dans les écoles, il faut être dans les mairies, il faut être président. D'ailleurs, il y a une place qui est requise hein, pour quelqu'un, si vous voulez. Comme ça, on a les postes clés et on peut évangéliser davantage. Mais j'ai aucun verset, en fait, qui parle de cela. Dieu nous a jamais demandé de gouverner ce monde. Donc voilà un peu globalement l'idée, hein, un âge d'or, une terre christianisée pour enfin que Jésus revienne, mais ce n'est absolument pas ce que la Bible dit en parlant du millénium. On tourne la page, page 26, on va parler de l'amillénarisme. Alors, c'est peut-être des mots qui sont un peu nouveaux pour vous. Hein. Alors l'amillénarisme, c'est la conception des fins dernières selon laquelle il n'y aura pas de millénium terrestre avant la fin du monde. Jusqu'à la fin, il y aura un développement parallèle du bien et du mal, du royaume de Dieu et celui de Satan. Et après le retour de Christ, à la fin du monde, se produira la résurrection générale et le jugement général de tous les êtres humains. Il faut savoir que cette idée est la plus répandue actuellement dans le milieu chrétien, évangélique, et pas baptiste, mais dans le milieu chrétien en tout cas. Donc, alors j'ai noté, hein, parce que des fois ils disent des choses à nous aussi, les amillénaristes, ils disent le « a » dans « amillénariste », qui normalement a un sens négatif, hein. Mais l'expression amillénariste n'est souvent pas appréciée par leurs défenseurs, parce que ça voudrait dire texto, en grec on pourrait dire, il n'y a pas de millénium. Pourtant pour eux il y a une idée de millénium quand même, hein. Ils croient à un millénium réel qui existe pour eux déjà aujourd'hui, on va voir un peu cela, et depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour. Certains font démarrer ce fameux millénium. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Jésus avait envoyé les 70 disciples, il a dit « Je voyais Satan qui tombait de la terre ». Et pour eux, ils mettent ça en rapport avec Apocalypse 12. On avait vu qu'il y a bataille entre Michael et Satan est précipité sur la terre. Mais ce n'est pas les deux mêmes événements là. Et donc, ils débutent en fait le millénium à partir de là, pour le finir au moment du retour de Jésus-Christ. Ils rejettent par contre un règne littéral. Hein, on va voir que nous, on est plutôt pour un règne littéral, parce qu'ils ont une autre lecture tout simplement de la Bible. Les amillénaristes vont dire toutes les prophéties passées qui se sont réalisées, ok, ça s'est accompli de façon littérale, on ne peut pas dire le contraire. Mais maintenant, et j'ai rencontré beaucoup de gens déjà en discutant avec ça, ah oui, mais les prophéties à venir, on ne va pas trop oser dire que ça va s'accomplir de façon littérale. Hein, et donc, on est assez prudent et. Pour la plupart, plutôt que de dire il va y avoir un vrai millénium terrestre, etc., on va plutôt allégoriser, voire trouver tout simplement une leçon spirituelle pour nous aujourd'hui. On va voir d'autres choses encore. Hein. Donc les amillénaristes préfèrent qu'on leur donne le nom de millénaristes réalisés pour signifier qu'ils ne nient pas la réalité d'un millénium, mais qui va s'accomplir en fait aujourd'hui. Pour eux, on est déjà dans le millénium aujourd'hui. Alors, la millénariste possède une herméneutique particulière, hein, comme je l'ai dit, ils ont tendance à spiritualiser les prophéties non accomplies, par peur de dire que ça va s'accomplir certainement littéralement. Et pour eux, dans leur pensée, ils se disent comme Dieu avait fait des promesses à Abraham, et qui étaient pour Israël aussi, et que Israël n'ayant pas achevé, on pourrait dire, ou réussi à obéir à ce que Dieu demandait, donc, finalement, Israël ayant échoué, n'ont pas profité de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, et ils disent que toutes ces promesses finalement sont transférées dans l'Église, et c'est pour ça que j'ai marqué que finalement pour eux, l'Église aujourd'hui est un Israël spirituel. Hein? Toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, alors il y a une nation, il y a un pays, enfin il y a un tas de choses qui ont été faites à Abraham, et bien tout ça s'est transféré aujourd'hui dans l'Église, et donc il y a une réalisation mais plutôt spirituelle, pas physique, pas littérale, spirituelle. Le problème pour celui qui voit un peu l'alliance qui a été faite avec Abraham, elle n'est pas conditionnelle. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez comment ça se faisait. Il coupait un animal en deux et il mettait les morceaux de viande sur le côté. Et normalement, les deux parties, et donc dans ce cas, il aurait fallu que Abraham et Dieu passent en même temps au milieu de ces morceaux de viande, les deux faisaient alliance et dans ce cas-là, c'était conditionnel. Si tu fais, donc, ok. Par contre, vous savez qu'Abraham s'est endormi. Et que c'est Dieu seul qui est passé au milieu de cette rangée, on pourrait dire, de morceaux de viande. Et par là, il signifie en fait que c'est une promesse inconditionnelle. Ça ne dépend pas en fait de la manière que Israël va réagir. Il a promis des choses à Abraham, il les accomplira non pas parce que Israël réussit ou échoue, mais parce que lui l'a décidé. Donc, quelque part, leur système ne tient pas. Alors, il y aurait des tonnes d'autres arguments, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail non plus aujourd'hui. Hein. Donc, le millénium a commencé à la première venue de Jésus, on l'a dit, et va s'achever lorsqu'il va revenir victorieux et il va juger à ce moment-là. Il y a toutes les résurrections, il y a tous les jugements, tout se fait au moment où Jésus va revenir, autant le jugement des justes et des injustes. Hein. Tout se fait à ce moment-là, pour eux. Alors, évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord dans la chronologie. Aujourd'hui, il y a deux théories qui sont débattues. Soit les chrétiens règnent avec Christ au ciel. Bon, c'est une théorie. Soit ils règnent sur la terre avec Christ. Et à partir du moment que vous naissez de nouveau, que vous repentez, que vous acceptez Jésus dans votre vie, vous naissez de nouveau et vous intégrez en fait le royaume. Alors ça dépend de la branche dans laquelle vous êtes. Soit vous régnez d'une façon spirituelle au ciel, soit vous régnez d'une façon aussi spirituelle sur la terre. Je vous laisserai décider, mais moi je ne suis pas d'accord avec cette théorie-là qui pose beaucoup de problèmes, hein, parce qu'il est dit qu'au début du millénium, par exemple, Satan est lié, d'accord, dans l'Apocalypse 20, et qu'il sera délié à la fin du millénium. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui Satan est vraiment lié, pas beaucoup d'incidence? Alors ils expliquent en fait, j'ai entendu plusieurs explications, mais en fait quand il est lié c'est par une chaîne dans Apocalypse, mais ils disent que de temps en temps Dieu permet que la chaîne soit un peu relâchée pour que Satan puisse agir. Bon, c'est vraiment vouloir absolument forcer l'interprétation de la Bible pour arriver à mon propre système. Alors on va rigoler sur eux, mais attention parce que des fois on peut aussi le faire nous-mêmes. On veut arriver à notre pensée, alors on va tordre les textes. Et ils sont obligés en fait d'inverser Apocalypse 20 et Apocalypse 19, parce que dans Apocalypse 19 il y a le retour de Jésus, on va plutôt dans ce sens-là, 19-20, mais comme le millénium est avant le retour de Jésus, donc forcément on est obligé de tout mélanger, tout arranger à notre sauce. Évidemment c'est parce que le Seigneur veut que l'on fasse. Donc, mais c'est quand même un système qui est extrêmement répandu. Par exemple, Calvin était d'accord avec ça, Luther était d'accord avec ça, et les luthériens et l'Église catholique aussi. Voilà ma position. Après, on peut débattre, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. On parle là du prémillénarisme. La croyance principale du prémillénarisme est celle d'un règne terrestre de Christ qui va établir en fait son royaume au moment où il va revenir. À la dernière semaine de Daniel, après la tribulation, Jésus vient, juge le monde et instaure son royaume qu'on appelle le millénium. Ce règne ne viendra pas graduellement, comme on a vu avec les post-millénaristes, mais il y en a qui appellent ça de façon cataclysmique. Et quand on voit tous les dégâts, tout Armageddon, tous les coupes qui vont être ouvertes, c'est vraiment un gros cataclysme mondial qui va avoir lieu à ce moment-là. Et alors Jésus va instaurer son règne. Et il est dit qu'il reviendra à un moment où la foi se refroidira aussi. Donc c'est complètement contraire à ce que disaient les post-millénaristes tout à l'heure, où soi-disant il y aurait de plus en plus de foi dans ce monde. Alors pour les prémillénaristes dispensationalistes, alors je ne veux pas trop vous faire du mal dans la tête, mais parce qu'il y a des prémillénaristes qui ne sont pas dispensationnistes, qu'on appelle classiques ou il y a un autre terme, ou historiques. Eux pensent simplement, la différence avec nous qui sommes dispensationalistes, c'est qu'eux ils disent que l'Église est enlevée à la fin de la tribulation. D'accord, ça c'est les prémillénaristes classiques, ils disent qu'on est enlevé à la fin. Par contre, les prémillénaristes dispensationalistes disent qu'on est enlevé avant la tribulation. Il y a encore les hyper dispensationalistes, enfin bon, je ne vais pas vous embrouiller dans le truc. Donc, pour les prémillénaristes dispensationalistes, le millénium est nécessaire pour l'accomplissement d'un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament. On a vu, si vous prenez le temps d'en voir dans tous les textes de l'Ancien Testament, il y a des prophéties qu'on n'a pas vues encore réalisées. Et donc, nous croyons, parce que certaines se sont réalisées, qu'elles vont s'accomplir de façon littérale. Contrairement aux amillénaristes, les prémillénaristes pensent que les prophéties non réalisées et faites au sujet d'Israël vont s'accomplir littéralement. Christ va revenir victorieux, va instaurer son royaume avec Israël à sa tête. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire, Israël, est-ce qu'il mérite ça? Parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils font non plus. Ce temps de règne de Christ durera 1000 ans. Par exemple, dans Apocalypse 20, versets 1 à 6, il est répété plusieurs fois que ça durera 1000 ans. À un moment, vouloir remettre en question l'aspect littéral de ces 1000 ans, c'est quand même avoir mauvaise foi. Il y en a qui vont faire des calculs 10 fois 10, ça fait 10 000 ans. En fait, les amillénaristes ne savent pas exactement le temps. Ça va durer un temps, mais on ne sait pas exactement. Mais quand même, il y a un principe dans la Bible qui est que quand les choses sont répétées une, deux ou trois fois, ça a un sens particulier et Dieu insiste là-dessus. C'est un peu comme ça que ça se passe souvent dans l'Ancien Testament, mais s'il a répété 6 fois que ça va durer 1000 ans, il y a une raison, je pense, quelque part. C'est pour vraiment nous convaincre qu'il y a une durée de 1000 ans. Donc Christ va instaurer cette fameuse théocratie que Israël avait refusée. Au départ, Dieu voulait être le roi d'Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Israël ? On veut un roi, on veut un président, on veut Sarkozy. Ils ne voulaient pas de Dieu comme roi. Alors Dieu, il les a laissés faire. Et si vous connaissez les chroniques, les rois, ça s'est plutôt très mal passé. Très très mal passé. Mais bon, Dieu est plein d'amour et de compassion, de patience. Et il nous laisse même faire nos bêtises. Mais après, il va récupérer la chose. Mais là, le Seigneur va instaurer cette théocratie. Et on va un peu voir après les détails de ce millénium, mais ça sera un temps de paix comme la terre n'en a jamais connu. Vous aspirez à la paix?
Oui.
À la justice?
Oui.
Mais à la vraie paix, à la vraie justice, parce que même dans notre cœur, notre justice est des fois encore biaisée. Et celle de Dieu, elle n'a rien à voir avec la nôtre. En tout cas, on se rapproche un maximum, mais je pense qu'on peut être un peu surpris. Et donc, on l'a vu, Satan sera lié au début du millénium, puis sera relâché à la fin de ce millénium. Alors, qui entre dans le millénium ? On peut se poser la question, mais j'avais déjà un peu répondu, hein, donc on peut aller un peu assez rapidement. D'abord, les Juifs vivants. Hein, Jésus vient, va juger les Juifs sur certains critères, et selon le critère, ben, ceux qui sont vivants mais qui ne correspondent pas aux critères vont être mis à mort, envoyés en enfer. Je rappelle ce que Jean-Denis nous avait dit hier. Hein, et voilà, la punition est là. En fait, une partie des Juifs vont voir ce Christ qui va arriver avec les mains percées, vont le reconnaître, nous dit Zacharie, et une partie va tout simplement se convertir. Et comme j'ai dit, ça va être un moment extrêmement plein d'émotions. Hein. Vous imaginez, vous avez renié pendant des siècles et des siècles quelqu'un que vous aviez en face de vous. Vous avez dit, c'est pas le Messie, et finalement, c'était vraiment le Messie. Ça doit faire vraiment un choc, je pense, dans leur cœur. Donc une partie des Juifs vivants va rentrer dans ce millénium, une partie des nations aussi vivantes va rentrer puisqu'il y aura un jugement, hein, Dieu va juger les nations et aussi sur certains critères. En même temps, on avait déjà vu ça un peu hier, donc je peux aller un peu plus vite, hein. Il y aura les chrétiens, certainement aussi les saints de l'Ancien Testament. Alors, certainement qu'on sera là dans ce millénium, mais la Bible ne donne pas vraiment d'indication sur notre rôle, sur ce que l'on fera durant ces 1000 ans. Il est beaucoup plus précis pour Israël. Hein. Mais par exemple, dans 2 Timothée 2:12, Paul, s'adressant aux chrétiens, déclare « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Donc, quelque part, il nous dit qu'on va régner avec Christ à un moment. Alors, comment ? On ne sait pas, mais en tout cas, on a certainement notre part dans ce millénium. Notre petite preuve, on pourrait dire, il a été révélé à Jean que les sacrificateurs de Dieu régneront et que ces sacrificateurs régneront durant 1000 ans, Apocalypse 26. Comme l'Église est également appelée un royaume de sacrificateurs au début d'Apocalypse, ben on imagine que nous régnerons en tant que sacrificateurs aussi durant ce millénium. Et puis les saints de l'Ancien Testament, souvenez que ils sont distincts de l'Église, puisque l'Église a commencé à la Pentecôte, s'achève au moment où l'Église est enlevée. Mais avant, des gens, par la foi, ont accepté de suivre Christ. Par préfiguration, ils ont été sauvés. Hein, et donc, ils vont aussi ressusciter et vont participer dans ce millénium. Et certainement, eux ont la plus grande place. Hein, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui rentrent, hein, on avait vu que quand on sera dans le millénium, effectivement, il y a des gens vivants, comme nous aujourd'hui, hein, qui vont régner pendant 1000 ans avec Christ, mais il y aura aussi des chrétiens ressuscités, et puis ces saints de l'Ancien Testament ressuscités. Donc ça sera un peu bizarre, hein, on n'a peut-être pas l'habitude de ça, mais ça, comme je dis, Jésus avait déjà vécu avec ses disciples quand il était ressuscité, et ça n'avait pas posé de problème. Mais là, ça sera à plus grande échelle. On va un peu décrire rapidement ce millénium. Vas-y.
Pendant le millénium, on vit normalement.
Qui ont déjà
Ceux qui vivent sur Terre.
Oui, c'est la grande question.
Mais je sais pas Dieu.
Oui, alors, on va voir qu'il y a une longévité déjà de vie.
Okay.
Mais s'il y a longévité, ça veut dire qu'on meurt aussi.
On meurt aussi. Et donc, on va.
C'est le grand débat. Oui, c'est la question de savoir si je meurs pendant le millénium. Alors, si je suis croyant, où est-ce que je vais? Il faut savoir qu'en attendant, il y a toujours le shéol avec la partie de non-croyants qui est là. Et certainement que ceux qui sont pas, enfin, qui sont punis ou qui vont mourir sans croire en Christ, enfin là, franchement, vous avez Christ en face de vous, il faut quand même avoir, ben, ils descendront certainement dans cette partie du shéol en attendant d'être jetés dans les temps de feu. Maintenant, ceux qui sont croyants et qui meurent, j'ai aucune réponse. Alors, j'imagine que peut-être ils vont être transformés. J'ai aucun verset, et donc, comme j'ai dit, je ne vais pas aller plus loin. Après, notre imagination. Moi, je fais confiance en Dieu. Si on voit que, par exemple, les saints de l'Ancien Testament, qui n'étaient pas la même dispensation, vont ressusciter, que l'Église, qui n'a encore une autre dispensation, vont ressusciter, et que le millénium étant encore une autre dispensation, certainement qu'ils vont ressusciter d'une manière ou d'une autre. De toute façon, il est promis à tous les croyants d'avoir un corps glorieux et d'être transformé, hein, ce qu'on appelle la sanctification finale. Donc, quelle que soit l'époque, je pense qu'on y passera. Mais voilà, on imagine. Non, mais c'est une bonne question. Hein. Il y a des questions tordues dans le millénium. Hein, si on commence vraiment à chercher. Mais bon, on ne va pas faire ça ce soir. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce millénium ou quelques caractéristiques de ce millénium? Vous le savez, hein, il y a le rétablissement d'Israël. c'est une promesse prophétique qui a été faite. Hein. Beaucoup de prophéties disent qu'à un moment, Israël va être rétabli. Ce sera une restauration finale, un retour du peuple juif à Dieu dans les derniers temps. Ce sera un moment merveilleux. Moi, en tant que chrétien, même si on est ressuscité, moi, je pense que c'est quelque chose qui va nous réjouir. D'abord parce que depuis le temps que Israël rejette le Messie, quand je vois la patience que Dieu a eue avec ce peuple, mais métaphoriquement avec nous aussi, parce qu'il a la même patience, c'est quand même beau la compassion de Dieu. Il aurait pu dire à un moment, écoutez les gars, là, stop, il y en a marre. Hein. Idolâtrie, je vous sauve, idolâtrie, et je vous sauve. Et, hein, vous connaissez les juges, hein, le yo-yo là. Et puis ensuite Israël qui est déporté, et puis ils pleurent, et puis ils reviennent, et ils recommencent, et ils abandonnent complètement pendant plus de 2000 ans. Vous feriez comment vous à un moment hein? Il y en a marre. Mais Dieu est plein de compassion et il y a une leçon pour nous aussi, que Dieu ne se lassera jamais de nous aimer, de nous pardonner, de nous relever quand tout ne va pas bien. Et si je suis vraiment déprimé aujourd'hui, si je pense que Dieu ne fera plus rien dans ma vie, ben c'est complètement faux. La preuve pour Israël, il y a toujours de l'espérance. Le moment de la restauration, je ne vous donnerai pas de date évidemment, hein, mais les prophètes ne nous livrent pas vraiment de date précise concernant ce rétablissement, mais il leur fut révélé plusieurs informations qui précèdent en tout cas cela. Le premier exemple concerne le jour de la colère de l'Éternel. Le jour de la colère, c'est quel moment? La colère, c'est là. Tribulation, hein. C'est synonyme le jour de la colère de Dieu, c'est aussi la tribulation. Hein. Et elle précède justement cette restauration d'Israël. Dieu délivrera Israël de la grande tribulation, alors une partie, hein. Il jugera alors les nations et puis les puissances politiques dans la vallée de Josaphat. Ce jour sera précédé du retour de Christ, le Messie triomphant qui apportera la délivrance et sera hein, pour Dieu et pour Jésus un jour de vengeance hein, pour le Messie. Mais en même temps, je pense un jour de joie pour tous ceux qui veulent le suivre. Il y a une restauration conditionnelle, on l'a déjà dit, que au moment où Jésus va revenir, une partie va accepter qu'il est le Messie, une autre partie va pas l'accepter, va peut-être même faire la guerre contre lui et sera purifiée, hein, c'est-à-dire tuée et jetée en enfer. Et donc cette purification se réalisera par la repentance d'Israël, donc c'est pour ça que je dis une restauration conditionnelle, à condition que j'accepte que Jésus-Christ est le Messie. Si je le rejette, forcément, je serai éloigné de lui. On voit aussi dans les prophéties que Israël, il y a une espèce de rassemblement. Alors ça fait déjà un moment que ça commence, hein, depuis bien des années. Dieu rassemblera ses brebis dispersées dans le monde pour les faire venir à Jérusalem. Et ce rassemblement va de plus en plus vite. Hein. Même pas en France, beaucoup de gens quittent hein, à cause de tous les événements qu'il y a actuellement. Et toutes ces choses se passent sous nos yeux. Je ne sais pas si vous le réalisez. Alors, il y a encore le temps peut-être, hein. Et puis je ne sais pas s'il y aura assez de place à Jérusalem ou enfin en Israël pour mettre tout le monde. Mais en tout cas, ce rassemblement vers Israël commence depuis un bon moment. Ce rétablissement aura aussi une répercussion sur les nations environnantes. Hein. Une fois que Jésus sera revenu, les peuples vont marcher à la suite d'Israël. Alors ça contraste bien avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les nations par rapport à Israël? Si on pouvait l'éliminer, on serait bien content. Hein. Mais une fois que Jésus va instaurer son millénium, son royaume, ben, les peuples vont marcher à la suite ben, parce qu'ils sont convertis et parce qu'ils acceptent maintenant que Jésus-Christ est le Messie. Ils vont se prosterner, nous dit Esaïe. Ils vont même supplier, hein, disant qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'auprès des Juifs et que par lui seul s'obtient en fait le salut. Donc, vraiment une transformation, on pourrait dire, ben, de l'idée des nations, mais bon, comme elles ont cru, elles vont tout simplement accepter et suivre. Puis ce rétablissement du royaume, une fois que tous les juifs seront à nouveau rassemblés, le rétablissement d'Israël sera également marqué par le rétablissement du royaume. C'est ce que Jésus annonçait pendant qu'il était là, le royaume qui doit venir. Ce royaume annoncé par les prophètes, puis confirmé par la première venue de Jésus, hein, il va éblouir la terre par sa splendeur, par sa gloire, pas parce que déjà les croyants seront réjouis, mais parce que Jésus sera sur la terre. Hein. Ça sera quelque chose d'absolument extraordinaire. Et si vous connaissez Daniel 2, hein, ce royaume va pulvériser en fait tous les royaumes humains ou terrestres qu'il y aura eu jusqu'à présent. Ça sera un royaume davidique. Alors là, il y a beaucoup d'écoles. Enfin, il y a au moins deux grandes écoles qui disent que soit David, bon, va ressusciter certes, mais va régner seulement en tant que roi sur Israël. D'autres pensent que ce David, c'est Jésus-Christ. D'autres pensent encore qu'en fait, il y a une espèce de corrégence. Choisissez, on verra bien. Mais certainement que David sera ressuscité, puisqu'il y a toute une promesse là aussi, mais en même temps, Jésus régnera sur Israël à ce moment-là. Et il est dit aussi qu'il va régner avec plusieurs princes juifs, hein, à ce moment-là. Et donc, après, je ne sais pas comment le gouvernement sera composé, mais bon, un peu de patience et vous verrez bien. Caractéristique, c'est que ça sera un royaume messianique. Michée décrit le rétablissement d'Israël comme le rétablissement d'un royaume messianique. Christ, qui est dit par Jérémie comme un roi compétent, hein, sera à la tête du royaume universel, car elle sera une bannière pour tous les peuples, un drapeau, hein, mais pour le monde entier cette fois. L'Esprit de l'Éternel reposera sur Christ, caractérisé par la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance et la crainte de l'Éternel. Bref, par rapport aux rois qui ont régné sur Israël, ça sera certainement la première fois qu'on va avoir un roi absolument parfait dans tous les domaines de sa vie. De toute façon, Christ est sans péché. Donc, il fera que des choses absolument justes. C'est là où des fois je me dis que, bon, moi, jeune chrétien, voilà, j'essaie d'être juste, mais si je me retrouvais devant sa justice, je ne sais pas si on pourrait faire vraiment les fiers non plus. Hein. On est content que Jésus vienne avec sa justice, mais où est-ce que j'en suis dans ma vie ? Est-ce que je peux vraiment me présenter en me disant... Alors, on est justifié, certes, hein, mais je pense qu'on peut rougir encore des fois. Jésus va régner avec droiture, avec une verge de fer. Hein. Il y a Ésaïe, mais il y a aussi Psaume 2 qui dit cela. Et avec une verge de fer, ça veut dire que au moment où quelqu'un fait du mal, pof, c'est puni. On va pas se poser 3 heures la question. De toute façon, le jugement de Jésus sera absolument parfait. Donc, il n'y a peut-être pas besoin d'avocat, de procédure. On va pas passer des heures à faire ça. Quand Christ aura décidé une sentence, elle sera absolument juste et elle sera appliquée. Il n'y aura peut-être plus besoin de prison, hein. Puisque les choses sont appliquées directement. Il punira les rebelles, il est dit. Donc ça veut dire que dans ce millénium, on l'a vu hier un petit peu, au départ, il n'y a que des croyants, donc des gens qui obéissent à Dieu. Alors on se pose la question, pourquoi à un moment, il y aura aussi des rebelles ? J'avais expliqué que, eh ben, 1000 ans, c'est long, ça fait une dizaine de générations, on va dire, en sachant en plus que 100 ans, ça sera jeune. Vous imaginez, 100 ans ? Allez, on va à l'école. Ben, on imagine qu'il va y avoir des bébés, qu'il va y avoir des enfants, des ados, et puis qu'ils vont grandir, qu'ils vont faire ensuite leurs enfants. Et peut-être que là, malgré la présence de Christ, ben, des gens vont dire, ben, non. Vous vous souvenez que quand Christ est venu la première fois, il a dit, je suis le Messie, il a dit, je suis le Fils de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, bravo. C'est ça ? Ben non, les pharisiens ont rejeté, ont été jaloux, enfin, ils ont tout fait pour l'éloigner, et finalement, l'ont crucifié. Ben, pourquoi pas, à ce moment-là, ben, on reprend les bonnes vieilles habitudes, on pourrait dire, et puis il y aura des gens qui seront punis pendant ce millénium, mais cette fois, ils seront punis directement. Et il est dit en particulier, alors c'est curieux, qu'ils seront punis parce qu'ils ne montent pas à la fête du tabernacle. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais certainement qu'il y aura peut-être des fêtes qui seront de nouveau remises à jour, en commémoration de certaines choses, peut-être, et puis le Seigneur voudrait tout simplement qu'on vienne ben, commémorer ces choses-là. Ceux qui ne le feront pas, nous dit Zacharie, seront punis. Ça sera, contrairement à ce qu'on a vu dans la millénarisme, un royaume terrestre et visible. Je verrai Jésus face à face, je verrai son règne face à face, il sera absolument terrestre. Hein. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, nous dit Ésaïe 11:9. Il sera au milieu d'Israël et il manifestera sa sainteté et sa gloire devant toutes les nations. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. La restauration finale se fera dans le pays d'Israël, nous dit Ézéchiel. Ce dernier sera partagé entre 12 tribus. Hein. Vous allez voir un peu dans Ézéchiel à la fin, après la description d'un temple qu'on va voir tout à l'heure. Le pays sera de nouveau découpé, hein, d'une certaine manière. Et il y a une partie dans ce découpage du pays qui sera réservée en fait au sanctuaire et à ce 4e temple qui va arriver. Il y aura, nous dit Ézéchiel, de nouveaux sacrificateurs. Il y aura des sacrifices. Alors on peut se demander pourquoi il y a de nouveau des sacrifices, hein, puisque le sacrifice a été accompli. Alors beaucoup pensent que, on va le voir un petit peu tout à l'heure, mais c'est plutôt une notion commémorative. Comme nous, on prend la scène, on se souvient de ce que Jésus-Christ a fait. Alors, on ne tue pas des animaux, hein, mais certainement que ça sera tout simplement en commémoration de ce que Jésus-Christ a fait et de son œuvre de grâce. Jérusalem sera la capitale de ce royaume, et on pourrait dire du monde. de ce royaume universel, la gloire de Jérusalem va resplendir à nouveau. Elle sera appelée Terre Sainte. C'est des fois mal utilisé le terme parce qu'elle sera Terre Sainte uniquement dans le millénium. Souvent on l'appelle Terre Sainte déjà aujourd'hui. Les croisés l'appelaient de cette manière-là, mais la vraie Terre Sainte, ça sera uniquement quand le vrai roi parfait sera là. Et là, on pourra l'appeler Terre Sainte. Ça sera une ville ouverte. C'est intéressant qu'il décrit ça comme cela, Zacharie. Pourquoi ouverte ? Finalement, une ville. Bon, aujourd'hui, on ne le fait plus, mais à l'époque, quand on mettait des murailles, c'est qu'on craignait quoi ? La guerre, les ennemis, etc. Aujourd'hui, on n'a plus de murailles, mais on a des missiles, on a un tas de choses. Mais là, il est en train de dire que ça sera une ville ouverte, donc elle ne craint absolument aucun ennemi, puisque de toute façon, Christ est là. Et toutes les nations vont monter pour adorer l'Éternel. Ce sera beau, non ? Aujourd'hui, on aimerait des fois prendre son voisin, ou prendre même des chrétiens des fois pour aller adorer l'Éternel. On a du mal, mais là, tout le monde va adorer l'Éternel. Vous pourrez aller dans la rue en parlant de Dieu, de Jésus, sans que ça vous pose de problème. C'est génial, non ? Et il croira vraiment ce qu'il est en train de me dire. Bah oui, non, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui... mais bon. Et on partagera, ça sera vraiment formidable. Il y aura un quatrième temple. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ces fameux temples. Le premier temple, c'est celui de Salomon, que Dieu avait demandé de construire et que David avait voulu construire, mais il le confiera à son fils. Le deuxième temple, c'est après la déportation, quand ils vont revenir de l'exil de 70 ans et vont reconstruire ce deuxième temple. On voit ça dans Agé et dans d'autres passages, Esdras, Néhémie. Puis un troisième temple. Alors souvent, on confond le troisième temple avec ce que Hérode va faire. En fait, Hérode va simplement agrandir le deuxième temple. Il va faire le parvis Donc lui, il avait juste agrandi le temple. Mais il y aura ce troisième temple dans la tribulation. Pourquoi on dit ça ? Comment on le sait ? Daniel 9, au milieu de la tribulation, il fera cesser l'offrande et le sacrifice. Donc ça signifie qu'il y aura un troisième temple durant cette tribulation. Alors autant le temple peut être construit bien avant que la tribulation commence, on ne sait pas, moi j'ai pas de date, mais c'est certain qu'il y aura ce fameux troisième temple. Et comme je l'ai déjà dit, tout est prêt pour le construire aujourd'hui. Autant cette fameuse vache rousse qu'il fallait utiliser pour purifier le temple, ils l'ont retrouvée. Avec l'ADN, avec tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ils ont retrouvé les Lévites. Tout est prêt, le chandelier est prêt, vous pouvez même aller le voir, je crois, à Jérusalem, il est en exposition. Tous les ustensiles sont prêts, le problème, c'est voilà. Il y a une mosquée en ce moment sur la place où normalement on devrait construire. J'avais lu un bouquin sur un archéologue qui disait qu'en fait, la mosquée n'était pas tout à fait à la place de l'emplacement où il y avait le temple de Salomon. Donc, imaginez, alors ça c'est moi qui le dis, mais imaginez que, comme on l'avait vu au départ de cette tribulation, il y a un pacte qui est fait avec plusieurs, une paix mondiale. Bon, œcuménisme grandissant, mais à un point qu'on ne peut pas imaginer. Mosquée, temple, ça posera peut-être pas un problème à un moment. C'est moi qui le dis, on est bien d'accord, je précise. Mais dans un œcuménisme grandissant, moi, ça ne me posera plus de problème d'avoir une mosquée. De toute façon, déjà en France, ça commence. Si vous allez à Paris, à Risson-Rangis, c'est marrant parce que vous avez l'église baptiste, à côté vous avez collé une synagogue et juste en face vous avez une mosquée. Bah oui, quand il y avait les attentats par contre, vous ne rentrez pas dans l'église comme ça, il y avait des militaires partout. Mais bon, ça c'est une idée que j'ai, ou alors à un moment peut-être cette mosquée va disparaître, mais tout est absolument prêt pour que ce troisième temple soit érigé. Par contre, dans le millénium, il faut lire Ézéchiel, et si vous êtes un peu dessinateur, si vous avez le temps, il donne toutes les mesures. Alors, j'avais commencé à le faire il y a quelques temps, c'est très précis. Et ça sera un quatrième temple qui ne ressemble absolument pas aux autres et qui a une autre forme complètement différente, une espèce de croix, et qui sera construit certainement durant le millénium, certainement même durant le millénium. Et c'est là où on recommencera les sacrifices en commémoration de ce que Jésus-Christ a fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, la Shekhinah, c'est la gloire de Dieu, avait quitté le temple. Parce que Dieu en avait marre du péché d'Israël. Et ça, c'était quelque chose d'assez grave. Je crois qu'ils ne l'ont pas considéré. Mais il est dit dans Ézéchiel que cette Shekhinah va revenir à partir de l'Est, si je me souviens bien, et va de nouveau rentrer dans ce temple et donner toute la gloire, en fait, à ce quatrième temple. Et c'est d'une certaine manière que Dieu est en train d'agréer le ministère de Christ et ce ministère pendant le millénium. Et puis, il y aura un roi parfait, on l'a déjà évoqué, hein, il est dit dans Ésaïe, de Sion sortira la loi, et Christ sera alors le juge des nations, jugeant les pauvres avec équité. Ensuite, quand on voit dans toutes les promesses, il est dit à Abraham qu'il aura jouissance d'un pays. Seulement, vous savez très bien qu'il n'a pas joui de tout le pays, et Josué est entré, mais n'a pas fait toutes les conquêtes qu'il fallait. Et finalement, le pays tel qu'il a été promis à Israël et à Abraham n'a pas été totalement conquis. Et finalement, alors c'est grosso modo, parce que finalement, dans l'époque du millénium, voilà à quoi ressemblera en fait Israël. Jusqu'à présent, c'est juste là, hein. Mais il est dit que ça va presque jusqu'à Babylone, hein. C'est vraiment grosso modo. Mais je vous ai laissé là toutes les promesses, il y en a tellement, on ne va pas les faire maintenant, mais vous prendrez le temps si vous voulez préciser encore plus. Mais grosso modo, voilà ce que devait être le pays qui a été promis à Abraham. Vous voyez quand même tout ce qu'ils ont loupé, l'air de rien. Et s'ils avaient tout conquis là, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui ? Ce serait un peu plus tranquille, je crois. Pas l'Irak, Palestine, tout ce qui est arabe, etc., qui fait la guerre en ce moment. Hein. Vous voyez, quand on désobéit à Dieu, les conséquences des fois qu'il peut y avoir dans le temps. Des fois, on pêche en se disant, c'est pas grave. Des fois, il y a des conséquences dans le temps. Ça, c'est une leçon, en tout cas, pour moi. Mais voilà, Dieu avait promis ce pays à Abraham, et il lui donnera, et ça sera absolument merveilleux. En Israël, il y aura le temple à Jérusalem, ce quatrième temple qui sera construit. Il y a toute une description, hein, vous irez voir ça dans Ézéchiel si vous avez un peu de temps. Quand on voit d'autres caractéristiques de ce millénium, on voit que ça sera un temps de joie, de paix, de sainteté. Hein, le champ aura une place d'honneur, Jérusalem sera dans l'allégresse, il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, il n'y aura plus ni enfants ou vieillards qui n'accomplissent leur jour. Ça, c'est intéressant. Est-ce que la maladie aurait disparu ? Je ne sais pas, mais pas la mort en tout cas, pour les vivants. Hein. Ce sera un temps de paix, les nations ne se battront plus les unes contre les autres, et s'il y a ennemis, nous dit Sophonie, l'Éternel éloignera tout simplement les ennemis. Les nations vont respirer la crainte de l'Éternel, enfin, parce que le monde ne craint pas du tout Dieu, au contraire, il le défie constamment. Il est dit dans Ésaïe que rien d'impur va entrer dans Jérusalem, tout va être consacré à l'Éternel, même les clochettes des chevaux, aux chaudières dans les maisons. Tout sera consacré à l'Éternel, une sainteté absolument tout horizon, on pourrait dire. La nature sera réconciliée, alors on connaît tous cette fameuse image du lion et du loup, et de l'agneau, enfin le lion aussi, hein. Les animaux sauvages semblent disparaître, ou en tout cas se calmer. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, pareillement, les hommes vont jouir d'une santé extraordinaire. Il dit dans plusieurs passages prophétiques que les aveugles verront, les sourds entendront, les boiteux marcheront et les muets vont éclater de joie. Donc une période vraiment particulière, faste pour la santé, plus de sécurité sociale à mon avis, je ne sais pas, j'essaie d'être concret aussi, mais en tout cas, ça sera une époque assez formidable. Et puis, une grande intimité entre le peuple de Dieu et l'Éternel. Jésus sera là et on sera dans une grande intimité. Aujourd'hui, on marche par la foi. On croit que Christ est vivant, mais là, moi, je l'aurai en face. Et ça sera une autre manière de vivre et forcément de nous réjouir. Après les 1000 ans, Satan sera délié. Il était lié au début. Vraiment lié, le grec est bien clair, il est lié et ça dépend d'un ange, donc soit l'ange va être corrompu et va le lâcher, mais on est bien clair, il sera vraiment lié. Mais au bout de 1000 ans, pourquoi Dieu le relâche ? Bon, dans sa souveraineté, moi je ne vais pas lui dire quoi que ce soit, il a ses raisons, mais après 1000 ans, il sera relâché pour un peu de temps, il est dit, et comme je l'écris, c'est là toute la souveraineté de Dieu. On a des fois l'impression que l'histoire, elle se passe un peu au hasard, que les choses viennent, et on se dit, mais où est Dieu ? Non, les choses se passent comme Dieu le décide, tout en laissant la responsabilité à l'homme, de faire ou de ne pas faire, mais Dieu est au gouvernail de ce monde. Le monde croit pouvoir faire ce qu'il veut, non. À un moment, quand Dieu a décidé, au bout de 1000 ans, il relâche Satan, et Satan va réunir toutes ces nations qui vont désobéir au Christ pendant ce millénium, et vont se réunir à cette fameuse bataille qui est appelée Gog et Magog, va séduire les nations, et vont partir faire la guerre dans cette fameuse ville sainte, forcément, il appelle ça le camp des saints, mais évidemment c'est Jérusalem, peut-être plus que Jérusalem, et puis finalement un feu de Dieu va descendre du ciel, et va anéantir une fois pour toutes Satan et le jeter dans l'étang de feu. Et on n'en parlera plus jamais. Je me souviens à l'Institut biblique, on s'est dit à un moment au prof, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il ne pourrait pas se rebeller une deuxième fois ? Ouais, ben non, ça ne me suffit pas. Non. Oui, mais argument. Oui, ouais, enfin, c'est ce que la Bible nous dit, mais je crois qu'il y a un passage, c'est dans Matthieu ou ailleurs, qui est dit que des anges vont garder tout cet étang de feu aussi. Donc il n'y a aucune possibilité pour lui de ressortir et d'agir. Évidemment, tu as dit que c'est fini, donc c'est fini. Mais quand on a un peu l'esprit tordu comme moi, on essaie toujours de trouver une petite solution. Mais oui, effectivement, il ne ressortira plus jamais, et en plus, il est surveillé, donc c'est fini pour lui. C'est quand même triste quand on y pense, hein. Je ne veux pas avoir une pensée de tristesse, mais tant d'orgueil, tant d'efforts, tant de morts, de milliards et de milliards de morts pour un caprice. C'est ça en réalité, hein, le résumé de la vie de Satan. Et finalement, je pense qu'il savait à un moment que sa fin allait approcher, je crois dans l'Apocalypse il dit ça, et finalement il va tout perdre. Peut-être dans notre vie des fois aussi, alors sans vouloir se comparer à Satan, on est bien d'accord, ben, on reste focalisé sur quelque chose, on a de l'orgueil et un caprice là parce que ben, Dieu ne fait pas comme je veux, ou... et puis on s'entête, finalement à la fin de la vie et sur le lit de mort on va se dire mais j'ai perdu tellement de temps en fait, j'ai perdu tellement de temps. C'est tellement bien de fléchir le genou, je sais que c'est pas toujours simple, mais si on a l'occasion et si on est dans cette situation, voilà l'exemple de Satan, c'est inutile de s'enorgueillir après Dieu. Il vaut mieux prendre le temps de fléchir le genou, de devenir humble et d'accepter ben, que Dieu nous reprenne, que Dieu nous change, que Dieu nous transforme. Mais c'est toujours pour mon bien à moi. Et une fois que Satan est jeté dans les temps de feu, il est dit qu'il y aura ce grand trône blanc. Alors juste un peu avant, je ne l'ai pas marqué là, mais Dieu va détruire la terre, va détruire les cieux, tout disparaît. Tout ce qui est là va disparaître. Hein. C'est là où des fois j'ai des discussions avec des écolos, ils disent il faut préserver la terre, il faut préserver, mais à un moment, de toute façon, elle va être détruite. Alors, je ne suis pas écolo, Dieu nous demande de respecter la terre, on est bien d'accord hein, là-dessus, mais peut-être pas à un tel niveau, je dirais, parce qu'à un moment, Dieu détruira de toute façon tout, que vous soyez écolo ou pas. Et puis une fois que cette terre et ces cieux seront détruits, viendra ce grand trône blanc, hein, ce qu'on appelle le jugement dernier. Une fois que Satan sera vaincu, il sera jeté dans les temps de feu. Maintenant, on passe à ce jugement des hommes. À ce moment-là, vont ressusciter tous ceux qui se trouvent dans cette partie du Sheol, où cette partie enfer, on pourrait appeler ça comme cela, hein, ça a plusieurs noms, et qui vont tous ressusciter à ce moment-là pour entendre simplement une seule sentence. Vous êtes condamnés pour l'éternité à être éloignés de Dieu. On appelle ça l'enfer. Mais moi, j'essaie d'imaginer des fois l'enfer. Alors, la Bible parle de plusieurs images. Hein. Il y a le feu, il y a les vers, il y a la douleur. Mais moi, je me dis quand même que on m'a parlé de Jésus d'une manière ou d'une autre. On m'a insisté des fois pour que j'entende. Et finalement, j'ai dit non. Un peu comme l'homme riche dans la parabole. Hein. Et qui dit, waouh, allez prévenir les vivants là. Aller prévenir parce que c'était vrai en fait. Et j'imagine que l'enfer, enfin le pire des enfers, c'est de regretter pour l'éternité le fait qu'on avait la chance de pouvoir saisir la grâce. Vous imaginez une éternité, on a tous regretté quelque chose dans notre vie je pense, mais imaginez ça à l'infini, à l'infini, à l'infini, j'aurais pu. Ça je crois que c'est le pire des enfers, hein. Et ça c'est terrible en fait. À part ça, il y a évidemment la Bible décrit un feu qui ne s'éteint jamais, des vers qui, etc. Il y a la douleur, mais c'est quand même triste d'avoir loupé la chance. Et les gens ne se rendent pas compte. Et donc ces accusés hein, vont se présenter devant Dieu. Et là, aujourd'hui, ils disent « Ah, mais moi, mais là, tu ne peux plus rien dire. Plus rien. Tu es devant Dieu, tu comparais. Sentence, mise à mort. Pour l'éternité, tu n'as rien à dire, c'est fini, quoi. » Aujourd'hui, on peut râler, on peut contester après Dieu, on peut dire Dieu, hein, pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a un tas de choses, mais à ce moment-là, il ne pourra plus rien dire. Le livre de vie sera ouvert, des livres seront ouverts, et puis là-dedans, les œuvres des uns et des autres seront manifestes, et ils ont pour seule sentence les temps de feu. Ils vont rejoindre tout simplement Satan, la bête et le faux prophète. Alors ça, c'est la sentence. En attendant, il y a beaucoup de gens encore qui vivent. On a l'occasion de leur parler, alors ça nous pousse encore à évangéliser au maximum, hein. Après évidemment ils ont leur choix à faire. Voilà pour ce millénium. fois que le millénium, il faisait grève. Une fois que le millénium sera passé, on parle de ce fameux paradis ou de cette éternité qui va commencer pour nous qui sommes croyants et qui ont accepté Jésus dans notre vie. Il est dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout devient absolument nouveau. On a dit, dans 2 Pierre, il est dit que tout ce que nous connaissons aujourd'hui va être détruit totalement et Dieu va recréer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il prendra combien de temps ? 7 jours peut-être de nouveau ? On verra bien. Hein. Mais ce qui est intéressant, si vous avez lu un peu Apocalypse 21, il est dit qu'il va reconstruire les cieux, la terre, mais pas la mer. C'est fini pour Arles, hein. Il n'y aura plus de plage, il n'y aura plus rien. Alors, on se pose la question pourquoi. Hein, si la mer était encore présente lors du millénium, selon le psaume 72, il semblerait qu'elle soit encore là, elle ne fera plus partie de la nouvelle terre. Certains pensent que comme la mer a été l'objet du déluge, hein, c'est la suite du déluge, elle n'existera pas à cause de ce jugement qui a été produit, qui a provoqué beaucoup de morts. Alors c'est qu'une théorie, hein, c'est pas une preuve. Certains voient que par son absence, ça va signifier une pureté des cieux et de la nouvelle terre. On verra bien. Bon, on n'ira pas se baigner, tant pis, il y aura peut-être des rivières. Hein, on va se rassurer comme ça. Mais je sais pas si j'ai envie de me baigner à ce moment-là. Et les croyants vont y vivre sur cette nouvelle terre pour l'éternité. Ça sera certainement aussi beau que le jardin d'Éden. Enfin, j'ai pas de carte postale pour vous présenter le jardin d'Éden, mais vu la description, je pense que Adam et Ève ont dû vraiment regretter de quitter leur maison et leur environnement. Mais est-ce que ça sera plus beau? Pareil, je ne sais pas, mais Dieu fait des belles choses, non? Je pense qu'on sera bien surpris. Quand on s'intéresse un peu, hein, en synthétisant toutes les données surtout de l'Apocalypse, on voit ce qu'on ne trouvera plus dans le ciel. D'abord concernant les hommes, une fois au ciel, beaucoup de choses vont changer pour ceux qui sont rachetés. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de larmes, de deuil, tout ça va disparaître. Hein. Il n'y aura plus de vie conjugale. On est marié, souvent on dit, hein, pour l'éternité, c'est faux. On est marié pour la vie, et puis après on se sépare, et puis on se reconnaîtra peut-être. Mais c'est dommage, hein, pour une fois qu'on serait parfaits tous les deux. Quel beau mariage, non? Jamais de disputes, jamais de problèmes. Ah, Seigneur, pourquoi? Mais bon, c'est le Seigneur qui a décidé ça comme cela. Et donc, imaginez une éternité sans toutes ces douleurs. Il n'y aura plus de procréation, donc il n'y aura plus d'enfants non plus, hein. Et on ne connaîtra plus jamais le péché. On a parlé un peu de ça avec les ados, mais l'idée c'est qu'à un moment, Dieu va nous sanctifier totalement, va nous transformer totalement. Cette nature pécheresse va disparaître. Je ne serai plus jamais enclin au péché. J'arrive pas à imaginer ça dans ma tête. Il faut savoir que Adam et Ève étaient dans cette situation-là. Hein. Ils n'avaient pas de nature pécheresse. Alors souvent on dit, ouais, on est toujours attirés, mais eux étaient absolument parfaits, ils ont quand même désobéi. Mais là, ça sera plus possible, ça sera fini parce que Jésus est mort à la croix, pour que nous profitions de ce qu'on appelle là la glorification, cette sanctification finale, une transformation totale. Et on va enfin revêtir ce corps glorifié. Alors là, il y a toutes les questions, à quoi on va ressembler, à quel âge? Je pense à ceux qui ont brûlé sur des bûchers pour leur foi, ils ne vont pas revenir en petites miettes, hein, on est bien d'accord. On retourne à la poussière, mais Dieu avait fait l'homme à partir de la poussière, donc ça lui pose absolument aucun problème. On verra bien à quoi on ressemblera, mais je pense pas que notre physique va nous intéresser à ce moment-là. On s'en fiche complètement. Ce qui nous intéressera, c'est d'adorer notre Seigneur. Concernant le temple, parce qu'on parle du temple dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de temple, puisque le temple maintenant, ça sera Dieu et l'agneau eux-mêmes qui seront le temple, et cette fois pour l'éternité. Concernant le soleil et la lune, selon Jean, hein, l'ange déclare qu'il n'y aura plus de soleil ni de lune, donc certainement que le système solaire ne sera plus de la même manière. Il y aura une autre lumière, et cette lumière tout simplement vient de Dieu lui-même, un éclairage qui vient de Dieu lui-même. C'est intéressant parce que les scientifiques ont trouvé aujourd'hui une source lumineuse dont ils ne connaissent pas l'origine. J'ai vu ça dans un article de Science Vie il y a bien des années. Souvent on croit que la lumière vient simplement des étoiles et des soleils. Ils n'arrivent pas à définir cette source lumineuse. Je pense surtout à Genèse au chapitre 1, quand les ténèbres et la lumière sont séparées. Est-ce que c'est là? Je ne sais pas, mais c'est intéressant quelque part. Mais Dieu sera la lumière pour l'éternité sur cette terre et sur ces cieux. Dans l'Apocalypse, à la fin de l'Apocalypse, on nous parle de cette fameuse nouvelle Jérusalem, une cité, une patrie et une maison paternel, on pourrait dire. Dans la Bible, le paradis est comparé à une cité. C'est la nouvelle Jérusalem qui se trouve dans les cieux, et Dieu en est l'architecte et le constructeur. Alors, comme on voit souvent dans Hébreux, c'est une cité permanente que les sauvés habiteront pour l'éternité. C'est cette fameuse patrie pour Abraham et d'autres qui voyaient par avance et qu'ils convoitaient, on pourrait dire, et qui les ont rejoints une fois qu'ils seront morts ou qu'ils vont rejoindre ensuite. On peut voir les caractéristiques sociales et gouvernementales. Le paradis sera caractérisé par une justice absolument parfaite. Elle est possible. Alors, en comparaison avec le millénium où on a vu qu'il y a encore des hommes ou des femmes qui vont s'opposer, cette fois, c'est fini. Il n'y a plus d'opposition. Tout le monde est d'accord. Et parce qu'on est transformé, forcément, on ne pêchera plus. Et si je ne pêche plus, je ne peux plus m'opposer à Dieu. Donc, il n'y aura plus jamais d'opposition à Dieu et ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une communion entre Dieu et l'humain. Ils habiteront ensemble, comme autrefois dans le jardin d'Éden. Est-ce que ça sera la même chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a une communion entre les deux. Et ça sera beau. Nous, on vit une certaine communion avec le Seigneur par la foi. Ça, c'est faiblesse, on pourrait dire. On ne voit pas encore Dieu, on ne voit pas Jésus. Mais là, on sera parfaitement en communion avec Dieu. Ce sera formidable. Ce sera extraordinaire. C'est toute l'espérance des croyants. Cette fameuse ville épouse, on pourrait dire. Autrefois, Israël était appelé épouse, l'Église aussi est appelée l'épouse, et cette fois, c'est cette nouvelle Jérusalem qui sera appelée l'épouse. Cette épouse qui, comme j'ai marqué, ne va plus jamais commettre d'infidélité à l'encontre de l'époux et de Dieu, puisque maintenant, on est devenu parfait. Autant Israël a failli dans sa dispensation, autant l'Église est en train de faillir dans la mission que Dieu lui a demandée. Mais maintenant, elle sera parfaite, cette épouse, et ne désobéira plus jamais à son époux. C'est une ville tant attendue. Vous y pensez des fois, à la Nouvelle Jérusalem?
Oui.
De temps en temps? Parce que moi, j'aime à dire que c'est en fait ma maison qui m'attend. Alors des fois, on va visiter notre maison, on va voir à quoi ça ressemble. Et bien, des fois, moi, j'aime bien faire le tour de ma future maison. Alors, elle sera avec vous aussi. Alors, je ne sais pas comment ça va être là-bas. Mais c'est bien de temps en temps de s'arrêter et de se dire, mais ok, il y a des choses terrestres là, mais ma vraie maison, c'est dans cette fameuse Nouvelle Jérusalem, sur cette nouvelle terre. Et c'est bien de temps en temps faire le tour du propriétaire, comme je dis, pour donner un peu plus de peps à notre espérance. Parce que souvent on regarde sur la terre, on voit des choses, voilà. Mais là, ça c'est pour moi en fait. Et c'est pour bientôt peut-être. Alors pourquoi pas, au lieu de regarder vers la terre, regarder plutôt vers ce que Dieu nous promet, notre espérance. Et ça devrait être une ville, une cité que, comme Abraham, qu'on attend vraiment par la foi, mais avec vraiment le désir de la voir. C'est une ville aussi céleste. Il est dit que cette nouvelle Jérusalem descend du ciel. Galate nous dit qu'elle vient d'en haut. Alors, on verra bien comment ça va se passer tout cela. Elle vient de Dieu. Donc, on l'a dit, c'est lui l'architecte. Alors, vous avez peut-être eu des architectes pour vos maisons, et puis, ils ont fait des petites erreurs. Mais là, la maison sera absolument parfaite puisque Dieu en est l'auteur. C'est une cité au solide fondement puisque Dieu est l'architecte et le constructeur. Ça sera aussi une ville-temple puisque Jean décrit la Nouvelle Jérusalem comme une ville sainte, une ville libre, entièrement dédiée à la gloire de Dieu. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes, bien qu'il n'ait pas de temple à proprement dit, comme on a dit, puisque c'est Dieu et l'agneau maintenant qui sont le temple. Puis une ville pour les racheter seulement, il n'y a que ceux qui sont sauvés qui vont habiter cette ville, puisque tous ceux qui ne sont pas sauvés sont en ce moment-là, à ce moment-là, dans les temps de feu. Quelle tristesse d'ailleurs. Rien de souillé va entrer dans cette ville, tout est pur, il n'y aura plus d'anathème, nous dit Apocalypse 22. Pour s'intéresser aux caractéristiques de cette nouvelle Jérusalem, d'abord la ville. Alors, l'ange fait une description de cette ville et il parle d'un éclat de cette ville qui signifie dans le grec flambeau. Vous imaginez cette ville qui brille comme un flambeau? Il faudra mettre des lunettes de soleil peut-être, je ne sais pas. C'est ce qui donne de la lumière comme un luminaire, le mot c'est ce qu'il veut dire. Concernant la Nouvelle Jérusalem, son éclat est semblable à celui d'une pierre précieuse, pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Il faut avoir un peu d'imagination. À quoi ça va ressembler. Il faut savoir que Jean décrit avec ce qu'il avait aussi à ce moment-là de connu. Donc ça sera certainement encore plus beau que cela. Certainement que la source de cet éclat est la gloire de Dieu lui-même qui va refléter peut-être sur cette ville. Quand on s'intéresse à sa grandeur et en particulier à la muraille, Alors, la Nouvelle Jérusalem nous dit, Apocalypse 21, mesure 144 coudées. Alors, il y a plusieurs coudées dans la Bible, hein. Il y en a une qui fait 50 cm, l'autre 64,2. Bon, bref. En fait, la muraille fera environ 70 à 85 mètres de haut. C'est haut, hein, c'est pas rien. Des fois, je me demande pourquoi il y a besoin d'une muraille, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Mais bon, c'est Dieu qui a décidé que c'est comme cela. La muraille est décrite, hein, elle sera faite de jaspe. Ses fondements seront ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, etc. Chaque fondement est comme une pierre précieuse. Bon, prenez le temps d'imaginer cela, mais c'est étincelant, c'est magnifique, c'est beau. Moi, j'aime pas trop toutes ces choses-là, mais bon, je peux quand même imaginer la beauté de cette ville à ce moment-là. Il est dit que sur cette muraille, il y aura 12 portes et 12 fondements, 3 à l'Orient, 3 au Nord, 3 au Sud et 3 à l'Occident. Certainement qu'elles sont à égale distance, hein, entre chaque porte, et elles seront peut-être, hein, j'ai fait un calcul approximatif, elles sont séparées au moins de 800 km. Imaginez la taille de cette muraille et peut-être même de cette ville, hein. Il est dit que les portes ne se fermeront jamais, donc je dis pourquoi une muraille, parce qu'il n'y a pas d'ennemis, mais en même temps les portes seront toujours ouvertes, donc on rentre, on sort comme on veut. Cette muraille va posséder 12 fondements sur lesquels sont marqués les 12 noms des apôtres de l'agneau. Les 12 fondements rappellent que cette cité est bâtie sur les mêmes fondements que l'église, qui ont été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, hein, Christ étant lui-même la pierre angulaire. Sur les 12 portes étaient écrits des noms, ceux des fils d'Israël. 12 noms seront également écrits sur les 12 fondements de la ville, ceux des 12 apôtres de l'agneau. Ça rejoint un peu les 24 vieillards qu'on avait vus, hein, 12 et 12. C'est ici la parfaite réunion, voilà un peu comment on l'explique, des saints de l'Ancien Testament avec celle de l'Église, hein, tout simplement. Alors, autrefois, il y avait des portiers qui étaient établis par Salomon pour garder les portes de Jérusalem. Hein. Dans le millénium, des gardes vont aussi assurer la sécurité de Jérusalem. On se demande pourquoi. Pourquoi il y a des gardes, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Mais les portes de la Nouvelle Jérusalem seront gardées par des anges. Hein. Cette fois, ce n'est pas des portiers, ce sera des anges. Et je crois qu'un ange est absolument parfaitement vigilant et infaillible. Alors, je dis, hein, bien que la sécurité sera maximum à ce moment-là, il y aura quand même ces gardiens. Peut-être qu'il y a une symbolique qui nous échappe là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne se passera jamais rien dans cette nouvelle ville. Hein. Les portes sont aussi représentées par 12 perles. Alors là, si vous essayez maintenant d'imaginer une grande ville avec des perles aussi immenses, on voit bien que c'est une image, hein, que ce n'est pas à voir de façon littérale, mais il y a la beauté de cette perle qui est là. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Les fondements sont ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, etc. Vous lirez, il y a au moins 7 de ces pierres qui rappellent le pectoral du souverain sacrificateur. Hein. Vous vous souvenez, il y avait 12 pierres qui représentaient les 12 tribus, et il y avait certains matériaux qui étaient là et représentés. Il y en a au moins 7 qui sont repris dans cette description des fondements. Quand on s'intéresse un peu à la forme, cette nouvelle Jérusalem, hein, sera carrée, semble, parce que la longueur, il est dit, est égale à la hauteur, est égale à la largeur. Donc, je ne suis pas un grand mathématicien, mais on voit bien que là, il y a un carré. Il est dit qu'elle va mesurer 12 000 stades, ça fait environ 2500 km de haut, 2500 km de long, 2500 km de large. Il y a de la place. Mais la hauteur, je ne la comprends pas. Alors, c'est peut-être. Oui, un cube, mais bon, pourquoi pas habiter sur la surface de la Terre plutôt que d'habiter là en hauteur. Alors, je sais pas, un HLM peut-être. Mais en tout cas, c'est absolument immense. Alors, certains imaginent que la cité flottera à 2500 km de la Terre. Plutôt que de dire qu'elle aura une taille de 2500, certains pensent qu'elle flotte à 2500. On verra bien, on va pas se battre pour cela. Mais comme j'ai dit, hein, la longueur, la largeur et la hauteur sont égales, donc moi je pense plutôt à la forme cubique de cette nouvelle Jérusalem. Alors, ça peut nous intriguer, cette forme, hein, pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ça rappelle le lieu très saint. Si vous regardez les mesures, c'est exactement un cube. Hein, c'était 10 coudées, si je me souviens bien, sur 10. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était ça. Mais en tout cas, ça formait un cube. Est-ce qu'il y a là, tout simplement, une métaphore, un symbole de ce lieu très saint dans lequel maintenant on va vivre pour l'éternité, peut-être, hein, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais en tout cas le cube est aussi quelque chose de parfait, Hein, donc, on va vivre dans une ville qui sera absolument parfaite, tout simplement parce que Dieu va habiter avec nous. Sa place, il y a une place. Alors, je ne sais pas où la mettre exactement, mais il est dit que la ville possède également une place. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y aura des arbres de vie. Ça vous rappelle quelque chose, l'arbre de vie ? Dans le jardin d'Éden, c'est ce qui permettait de vivre éternellement. Et j'aime à dire que, heureusement que Dieu a chassé Adam et Ève quand ils ont péché, et qu'ils n'avaient plus accès au jardin d'Éden. Parce que s'ils avaient péché, et qu'ils avaient encore accès à cet arbre de vie, ils mangeraient tous les jours, sans aucune possibilité d'être sauvés. Vous imaginez ? Donc des fois, on pense que la punition est sévère de la part de Dieu, mais en fait, elle était plutôt salvatrice. Vous ne pouvez pas le comprendre à ce moment-là. Mais heureusement qu'ils n'avaient plus aucun accès. On va en reparler un peu de cet arbre de vie. La place est également en or pur, comme du verre transparent. Vous imaginez un peu le luxe. Alors peut-être on n'a jamais vécu dans le luxe aujourd'hui, mais ce qui nous attend, c'est assez beau, on va dire. Mais comme on sera tellement humble à ce moment-là, bon, on verra bien. Ce fameux arbre de vie, il est dit, sera là. Et puis, l'arbre de vie, il parle de guérison des nations. Alors, on sait que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se nourrissaient de cet arbre de vie qui semblait leur conférer l'éternité. Hein. Et lors de la chute, ils ont été chassés et des chérubins ont été placés pour les empêcher de rentrer de nouveau dans ce jardin. À partir de là, ben, comme ils ne pouvaient plus accéder à cet arbre, tout doucement, ben, ils sont morts. Hein. Alors le temps de vie va diminuer au fur et à mesure, et puis 120 ans, comme nous dira Genèse, sera le temps de l'homme. Et cet arbre de vie sera de nouveau placé dans le paradis. Il semblerait qu'il y en ait même plusieurs. Hein, et sera placé au milieu de la ville et sur les deux bords du fleuve. Alors, il existe plusieurs interprétations concernant aussi la guérison des nations. Puisqu'il est dit qu'il y aura ces arbres qui sont là pour servir à la guérison des nations. Alors, je vous ai donné deux interprétations qui me semblent peut-être les meilleures parmi un tas d'autres. Alors, il y en a à foison, si vous voulez. Mais voilà, une première, c'est une guérison suggère qu'il y a une maladie, et la maladie suggère le péché. Seulement, dans le paradis, il n'y aura plus de péché. Alors, l'auteur analyse le mot guérison, hein, qui est en grec thérapeo, et qui a pour premier sens soin religieux. Cela permettrait d'envisager son sens comme le bien-être des nations qui résulte de la communion avec Dieu, comme s'il va y avoir une espèce de guérison progressive. Mais comme on a dit, on est transformé. Alors je me pose la question. Une deuxième qui est de John Alexander, hein, qui considère le mot thérapeo comme soulignant une longue convalescence. C'est un processus qui libère des maux dont l'homme aurait souffert jusqu'à présent. Mais la glorification, la sanctification finale, je pense, c'est quelque chose qui se fait d'un seul coup. Et tous les maux, tout ce dont j'ai souffert, disparaît d'un seul coup. Donc voilà, c'est les meilleures interprétations que j'ai vues. Bon, après, ça devient vraiment loufoque. Je ne peux pas vous répondre plus que ça. On verra bien à quoi ça va servir quand on sera dans le ciel. On voit qu'il y a un fleuve d'eau de la vie aussi qui va s'écouler, hein, limpide comme du cristal, qui va sortir de dessous le trône de Dieu et de l'agneau. Alors certains qui pensent là pensent que c'est le symbole de la souveraineté de Dieu et de l'autorité de Dieu pour féconder ce nouveau monde dans l'ensemble, hein, dans son ensemble. D'autres estiment que ça symboliserait le don de la vie éternelle, qui est la conséquence de la présence de Dieu au milieu des hommes et de sa communion parfaite avec eux. Faut-il mettre en relation aussi ces eaux vives dont la source qui est ouverte dans Zacharie pour le péché et l'impureté d'Israël? Mais ça sera pendant le millénium. Bon, hein, et puis on voit aussi durant le millénium, une source d'eau vive coulera sous l'autel et se répandra dans la région, offrant la vie à tout être vivant qui se meut. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est retransféré? Je ne sais pas. Il y a peut-être des choses à voir là. Hein. Concernant l'éclairage, on l'a déjà dit, il n'y aura plus besoin d'éclairage puisque c'est Dieu, c'est la gloire de Dieu qui va illuminer cette nouvelle terre.
Il y aura encore un soleil?
Je ne dis pas non. Parce que Dieu va refaire le ciel, la terre, donc il y a peut-être une terre, et si la terre doit tenir, il y a peut-être un système solaire. Mais ce n'est pas l'origine de l'éclairage, d'accord ? Je ne ferme pas. Mais ce qui nous éclairera, c'est Dieu, d'accord ? C'est la lumière de Dieu, la gloire de Dieu qui éclairera. Donc économie d'énergie, hein, et plus de factures EDF. Voilà, soyons pratiques. Mais je crois qu'au-delà de l'idée seulement de la lumière, Hein, je pense que c'est la gloire de Dieu qui est là, qui resplendit. C'est la majesté de Dieu. Pardon ? La terre entière, voilà. Et pourquoi pas même le monde, l'univers, s'il y a un nouvel univers. Hein, bon, on verra bien. Il n'y aura plus d'anathème, de malédiction ou de dire des choses contre Dieu, hein, puisque maintenant tout le monde sera parfait et tout le monde régnera avec Dieu éternellement. Oui. Donc tu confirmes qu'il y a un système solaire, mais qui n'est pas utile pour éclairer tout simplement cette nouvelle terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'un système solaire. On verra bien. On va pas se disputer pour ça. Moi, je regarde ma petite terre, la tranquille, qui est éclairée, où je vais vivre, hein, le reste... Bon, si on pouvait enfin se promener dans l'univers, moi, ça m'intéresserait. Hein. Comme on est ressuscité, on verra bien. Quand, oui, si je pouvais aller sur la lune, j'irais, moi. Mais bon, ça, chacun son trip. Hein. L'extérieur de la Nouvelle Jérusalem, la Bible, sans vraiment apporter beaucoup de précisions, hein, semble décrire qu'il y a une vie à l'extérieur de cette Nouvelle Jérusalem, et elle parle de nations et des rois de la terre qui vont, certainement à la fête des Tabernacles ou d'autres fêtes, apporter la gloire et l'honneur à Dieu. Et là, on peut se poser la question, mais c'est qui ces nations ? Est-ce qu'il faut les distinguer des croyants, de ceux qui sont nés de nouveau ? Est-ce que c'est les croyants nés de nouveau ? Alors, voilà quelques théories. Hein. Alors, certains pensent que les rachetés sont tous les ressortissants des peuples que Christ aura récompensés lors du jugement des nations. Hein. Donc, tous ceux qui ont été récompensés au moment où Jésus est revenu, ça sera certainement eux, puisqu'ils sont distincts de l'Église, distincts aussi des saints de l'Ancien Testament, et auront peut-être une part un peu différente, pas forcément moindre, mais différente sur cette nouvelle terre. D'autres estiment qu'il faut faire une distinction entre l'épouse et les nations dont on parle ici, donc ils distingueraient l'Église et ces fameuses nations. Certainement que ces nations seront formées par les personnes restées fidèles à Christ lors du millénium. Alors ça rejoint peut-être la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui sont sauvés pendant le millénium? Ils ont peut-être une part différente de l'Église, je dis toujours pas moindre parce que je crois qu'on sera tous au même niveau, mais peut-être qu'ils auront un autre rôle à ce moment-là sur cette fameuse nouvelle terre. Quand on s'intéresse au peuple et aux serviteurs de Dieu, rapidement, vous avez déjà été joyeux ? Ouais. Mais vous croyez vraiment que ça sera la joie qu'on aura là ? Non, je crois pas. D'abord, on est joyeux avec notre nature pécheresse, qui des fois nous attriste l'air de rien. Mais là, n'ayant plus de nature pécheresse, étant absolument parfait, notre joie sera absolument parfaite et en plus éternelle. Vous pouvez vous imaginer ne plus jamais pleurer, ne plus jamais être triste. Ça nous dépasse, hein, je pense, en tant qu'être humain, pour l'instant. Mais c'est ce qui nous attend. C'est un peu effrayant pour moi, mais en même temps, je m'en réjouis. Hein. Il parle aussi qu'il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri. Plus jamais on pleurera nos morts.
Enfin.
Choisissez l'enfer, hein. Pourquoi ça serait monotone? Pas forcément. Je pense pas qu'on chantera tout le temps, parce que, enfin, on aura une belle voix déjà. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Pourquoi ça serait monotone? La monotonie vient de notre nature pécheresse. Parce que c'est monotone de venir à l'église tous les dimanches des fois. C'est monotone de lire sa Bible. Parce qu'on a une nature pécheresse. Mais quand on sera transformé, on fera les choses naturellement, comme Dieu le désire. Et je pense qu'il n'y aura plus de monotonie. Pour moi, ça n'existera pas. On sera heureux, puisqu'on a dit que le peuple de Dieu sera heureux, parfaitement heureux. Donc tout ça, ça sera loin de nous. Alors c'est vrai que je me demande des fois, comme disait Graziella, on va chanter tous les jours, pendant l'éternité. Je ne pense pas. Je regrette qu'il n'y aura plus d'ordinateur, moi, mais on verra bien. Peut-être que ça sera encore mieux. Mais on est là, Dieu a créé l'homme, pourquoi ? C'est quoi l'unique but de la création de l'homme ?
L'amour,
bon, mieux. Adorer Dieu. Sa gloire, mais adorer Dieu. Hein ? Reconnaître qui est Dieu. Et il faut un vis-à-vis pour ça. Parce que s'il n'a pas de vis-à-vis, personne ne sait qui est Dieu et personne ne connaît Dieu. Mais on a été créé pour adorer Dieu finalement, pour célébrer sa gloire. Et après, ça se fera certainement sous forme d'autres activités. On verra bien. Enfin, Moi, je préfère la monotonie de l'éternité avec Dieu que la non-monotonie dans l'enfer. Autant choisir déjà. On sera dans la présence de Dieu pour l'éternité. On verra Dieu face à face. On sera dans la présence de l'agneau aussi. Hein. On verra Jésus. On verra que ce fils d'un père parfait et bon et qui a été fidèle à Dieu et qui allait jusqu'au bout pour que nous puissions profiter de tout cela. Parce que nous sommes co-héritiers, nous dit la Bible, mais honnêtement, tout ça pour moi, sérieusement, quand on y réfléchit, vous méritiez ça ? Est-ce que je mérite ça ? Même aujourd'hui, en tant que chrétien, avec ma vie chrétienne qui n'est pas toujours parfaite, je pense que ça doit nous pousser vraiment à une profonde humilité de se dire quand même qu'on se réjouit de toutes ces choses-là. On sait que ça va nous arriver, mais je pense que Dieu nous les a permis de les connaître un peu en surface pour nous conduire à être humbles, hein, et dire quand même waouh, je ne méritais déjà pas la grâce, il me l'a accordé, je ne mérite pas beaucoup plus que la grâce, et pourtant il m'accorde de participer à sa gloire, d'être co-héritier avec tout ce qu'il va recevoir. Franchement, Dieu est bon. Et puis un service éternel, alors il y aura une forme ou une autre, hein, mais ça sera un service sans contrainte. J'irai vers Dieu sans me lever le matin en disant je suis crevé, il faut aller à l'église encore, il faut adorer Dieu, puis je suis vraiment pas en forme, hein. On est comme ça, non? Des fois, pas tout le temps, mais là on ira avec joie, avec zèle, et on va tout simplement adorer Dieu pour l'éternité et au siècle des siècles. Et combien de temps ça va durer?
Éternellement. Non?
Bah oui, mais ça fait combien de temps ça? Essayez d'imaginer l'éternité. Ça va être très long. Voilà un peu pour la description sommaire, hein, on va dire, de ce paradis. Mais je crois qu'elle donne envie, non? Moi, je pense que ça donne envie. On va conclure et faire quelques constats par rapport à tout ce qu'on vient de voir durant ces 4 jours, hein, cette conclusion générale. Un premier constat, c'est que l'apôtre Paul dit à Timothée, en 2 Timothée 1,14, garde le bon dépôt. C'est quoi le dépôt? Qu'est-ce qu'il doit garder, ce fameux Timothée? La parole de Dieu. J'irai un peu plus précisément. Fort, je suis sourd. J'attends d'être ressuscité pour mieux entendre. Quelqu'un a dit quelque chose? Ouais, bon, c'est la parole de Dieu, je suis d'accord, mais c'est la saine doctrine. Parce que bon, beaucoup de gens propagent la parole de Dieu, mais ce n'est pas forcément la saine doctrine. Et ce bon dépôt, il dit à Paul, à Timothée, maintenant conserve-le, bats-toi pour la transmettre fidèlement. Et c'est encore notre tâche, nous, aujourd'hui, de transmettre ce bon dépôt à nos enfants, à ceux qui entrent dans l'Église, à ceux qui veulent bien entendre. C'est le rôle du chrétien, c'est le rôle de l'Église qui est le colonne, hein, comme dit Timothée toujours, et l'appui de la vérité. Seulement, on regarde aujourd'hui le monde chrétien et il n'y a pas beaucoup de connaissances eschatologiques. Alors, attendez, avant de vous culpabiliser, vous avez eu toutes les informations, c'est normal, il ne faut pas tout maîtriser. Moi, j'ai mis 10 ans, hein, et encore, j'ai encore du mal des fois. Mais au moins avoir une idée d'où je vais, comment j'y vais, ce qui va arriver dans ce monde, globalement. Vous pensez tribulation, vous avez tout résumé. Hein. Au moins avoir quelques bases tout simplement d'eschatologie. Là maintenant vous en avez quelques-unes, j'espère. Après à vous d'approfondir si vous en avez envie, hein, il faut être curieux, lire dans la Bible, mais le monde aujourd'hui manque de connaissances, et ça rappelle le verset de Osée qui dit que faute de connaissances le peuple meurt, et l'Église se divise, fait de plus en plus n'importe quoi parce que on ne lit presque plus la Bible. Mais on va vers des émotions, on veut du miracle, on veut un tas de choses extraordinaires. La parole de Dieu, la transmission de cette saine doctrine est complètement bafouée. Et forcément, à partir du moment qu'on ne s'appuie pas sur la saine doctrine, les portes sont ouvertes. Moi, en tant que chrétien, si je veux être un chrétien responsable, sans être un docteur forcément, mais je veux prendre le temps de lire la Bible, de prendre le temps de connaître qui est Dieu, et forcément, quelque part, de prendre le temps de connaître un peu plus l'eschatologie. Hein. Il ne s'agit pas de connaître, c'est pas ça l'idée. Il y en a qui sont faits pour ça. Mais au moins d'avoir une idée globale hein, de ce qui attend ce monde. Mais ça demande du travail, des fois. Ça demande beaucoup de travail. Pas que pour l'eschatologie, mais pour beaucoup de domaines. Comme j'ai dit, je ne sais plus quand, mais qui est-ce que je suis en train de suivre, un Dieu avec un demi-portrait que je connais qu'à moitié? Des fois, je ne sais même pas ce qu'il veut pour moi dans ma vie. Ou est-ce que je veux vraiment connaître ce Dieu parfaitement dans toute sa volonté pour moi? Mais pour ça, évidemment, ben, il faut que j'apprenne à connaître Dieu. Il faut que j'apprenne à lire la Bible. Ah oui, la Bible, ce n'est pas toujours simple. Ben, alors, je peux aller à une étude biblique, on va m'expliquer ces choses-là. Dieu donne tous les moyens aujourd'hui. Moi, j'imagine Calvin, à l'époque, quand il devait relire la Bible en grec, et une fois et deux fois pour retrouver les mots, faire une analyse d'un mot grec, par exemple. Il devait tout relire. Nous, on fait clic, clic, on a le mot grec, on a la traduction, on a toutes les versions d'Arabie, machin, etc. Et maintenant qu'on a tous ces outils, on s'en fiche. C'est quand même curieux, hein, l'homme est paradoxal. Mais vous avez un tas d'outils aujourd'hui qui vous permettent d'étudier assez rapidement. Mais prenez le temps de temps en temps. Il ne s'agit pas d'être des gros étudiants, mais de temps en temps se faire plaisir pour connaître un peu plus. C'est ça, transmettre la saine doctrine, le bon dépôt. Et si toute l'Église se met à travailler dans ce sens-là, chacun a sa vitesse, on pourrait dire, mais chacun veut absolument transmettre cette saine doctrine, ben je crois qu'on sera une belle Église qui sera solide dans la foi, et l'ennemi peut venir et il ne la renversera pas. Mais l'ennemi renverse bien souvent les Églises parce qu'il n'y a aucun fondement dans la saine doctrine. Deuxième petit constat qu'on pourrait faire, est-ce que l'Église est capable de défendre sa foi ? Je me souviens que j'étais allé dans une église et puis j'ai demandé, est-ce que vous parlez en langue ? Ah oh ben non ! Non ! Ah, surtout pas ! J'ai dit, pourquoi ? La tradition. Ben oui, mais on rigole quelque part. Est-ce qu'on est capable de défendre sa foi ou est-ce que c'est une espèce de tradition qu'on se transmet dans l'église, hein, mais on ne sait pas pourquoi en fait. C'est pas mieux qu'être catholique finalement. Le Seigneur veut qu'on ait une conviction dans notre cœur, qu'on suive Christ avec une conviction, pas avec une tradition. Et c'est là toute la différence. Défendre sa foi, c'est avoir une conviction. Comme je le marque, de moins en moins les chrétiens lisent la Bible, l'étudient. On est prêt à se contenter de lait, hein, plutôt qu'une nourriture solide. J'aime à prendre l'exemple, hein, là c'est pour les mamans et les papas. Si vos enfants restaient à l'âge de 6 mois toute leur vie, pendant toute votre vie, reste au lait. Vous n'en avez pas un peu marre à un moment ? Je crois que oui, hein, enfin, ça me semble logique. Ben Dieu, c'est notre Père, quelque part. Et peut-être des fois, il en a marre de nous voir au lait, de juste prendre la base de la parole de Dieu et de nous en contenter, alors que lui, il voudrait nous faire avancer. De la nourriture solide, plus ou moins solide, mais en tout cas avancer dans et la connaissance de Dieu, et donc forcément dans ma relation avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu, dans la sainteté. Dieu veut qu'on avance, il ne veut pas qu'on reste statique. Et de toute façon, moi j'ai comme idée qu'un chrétien monte une pente. À partir du moment qu'il lâche prise, il ne reste pas sur place, il dégringole. Par contre, celui qui veut de la nourriture solide, lui va tout simplement monter. Et une église qui est au lait, forcément va devenir la proie facile de l'ennemi. C'est trop facile. Et puis, il y aura division. S'il y avait aujourd'hui des Béréens, je ne sais pas si vous connaissez ces fameux Béréens que Paul avait rencontrés, il leur a annoncé la bonne nouvelle, et puis les Béréens sont rentrés à la maison tranquillement, et puis ils ont, voilà, ouais, on a gobé ce qu'on nous a dit ce matin. C'est ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris le temps de contrôler. J'espère qu'après, vous allez prendre le temps de contrôler tout ce que j'ai pu dire. Bon, normalement, je n'ai pas dit de bêtises, mais je vais à l'église, bien souvent, j'entends le parole d'évangile. Voilà, et puis je pars. Je pense qu'ici, j'ai confiance. Mais dans d'autres églises, des fois, on fait parole d'évangile. Vous savez, sur Facebook, des fois, je m'horripile, il y a des faux prophètes, et tout le monde dit « Amen, Amen ». Le dernier que j'ai rencontré, il disait qu'il fallait absolument qu'il y ait un prophète pour qu'on puisse naître de nouveau. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas, alors il l'appelait, je ne sais plus comment. Ben, je lui ai écrit quelques petits mots sympathiques pour lui rappeler que ce n'est pas du tout ça. Mais les gens disent « Amen, Amen, gloire à Dieu, on est d'accord ». Mais on ne sait pas pourquoi. Ou alors on acquiesce sans savoir parce que c'est un prophète. Attention. Ben, c'est pas ce que faisaient les Béréens. Ils prenaient le temps d'étudier. Alors ça peut demander plus de temps pour certains ou d'autres. On peut étudier ensemble, pourquoi pas. Hein, et puis chacun a notre intelligence plus ou moindre. On peut pas toujours tout comprendre, mais on peut partager. Mais faire comme ces Béréens et voir si ce qu'on nous dit était absolument vrai. Et puis je l'ai déjà dit, mais on va répéter. Ouais, l'eschatologie, ben, 4 jours, là, c'est compliqué. Hein, on est bien d'accord que c'est compliqué. Ouais, mais le problème, c'est que je me souviens quand j'allais me faire consacrer comme pasteur, avant j'ai dû passer devant 17 pasteurs pour me faire massacrer, comme on dit. Et devant, il y avait un pasteur qui est passionné par l'eschatologie, et je le connais bien, et il m'a posé la question devant tout le monde, il dit, est-ce que l'eschatologie c'est important ? Il connaissait déjà ma réponse, mais en fait, vous savez, dans ces moments-là, en fait, ils se répondent à eux. Hein. Mais bon. Et j'ai dit oui, parce que tout simplement, mais l'eschatologie va parler de l'Église. L'avenir de l'Église, c'est de l'eschatologie. L'eschatologie va parler de moi et la mort, forcément. On appelle ça l'anthropologie. La martologie, c'est la doctrine du péché. Et en fait, l'eschatologie, vous serez confronté dans toutes les doctrines de la Bible, à un moment ou à un autre. Donc c'est important de se dire, plutôt que de rejeter en bloc en disant c'est trop compliqué, oui c'est compliqué, je l'admets, mais il y a quand même des choses simples, et je suis convaincu que vous avez retenu certaines choses au moins déjà aujourd'hui. Vous imaginez, si vous le faites 2-3 fois, vous allez retenir d'autres choses. Mais il ne faut pas se dire parce que c'est compliqué qu'on le rejette. Ah, l'ecclésiologie c'est un peu plus simple, pneumatologie de Saint-Esprit c'est plus simple, mais ça a des ramifications dans toutes les autres doctrines, et c'est important de prendre le temps de l'étudier. Un autre constat qu'on pourrait faire, c'est que j'ai, et vous, j'espère en tout cas, que vous avez un avenir glorieux. Alors, on a vu qu'on ne peut pas tout expliquer dans l'eschatologie, il y a une tonne de d'ombre hein, là-dedans. Dieu ne sait plus à nous révéler qu'une partie. Bon, ben, on ne va pas aller plus loin que ce qu'il nous a dit, et on va se contenter tout simplement de cette partie. Mais vous avez vu que cette petite partie qui nous semble si simple est tellement compliquée déjà. Si on a réussi à prendre le temps de vraiment étudier le peu que Dieu nous ait révélé, c'est déjà un sacré défi dans la vie d'un chrétien. Mais il ne sait plus à laisser des ombres. Mais là-dedans, on a vu ni douleur ni pleurs. Le chrétien va connaître la joie pour l'éternité. Mon avenir n'est pas un avenir triste, c'est un avenir glorieux. Et parce que c'est un avenir glorieux, ça doit produire quoi dans ma vie ? La tristesse ?
La joie.
Ah oui ? Je ne sais pas, imaginez tout ça pour vous, pour moi.
Ouais. La joie aussi aujourd'hui, mais indépendamment des circonstances aussi.
Il y a la vie, mais je pense que dans les circonstances difficiles, plutôt que de regarder par terre, regardez à votre espérance, regardez à votre identité, regardez à cet avenir glorieux. Je me souviens, monsieur Gérard Dagon, je ne sais pas si certains connaissent, c'est un pasteur qui est décédé, il disait à des gens qui étaient en train de déprimer, tu prends une feuille blanche, tu tires un trait au milieu, tu marques tout ce qui ne va pas, et après tu marques toutes les promesses de Dieu et tout ce qu'il peut faire pour toi. Et généralement, la liste est largement plus longue que tout ce qui ne va pas. C'est exactement la même chose. Mon avenir glorieux, c'est quelque part ce qui me donne la joie, qui me donne de l'élan, même si des fois il y a des coups de blues dans la vie chrétienne, et ça arrive à tout le monde, mais il faudrait qu'on ait toujours ça en tête pour que ça nous donne de l'élan dans notre vie de chrétien. Et il faut se souvenir, c'est un effort de souvenir ce qui va nous arriver. On a bien souvenir de ce qui se passe mal, mais jamais de ce qui est bon pour nous. Puis connaître la présence divine n'est possible que parce que Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour nous. Et pour accepter Jésus, il faut accepter de se repentir. Et quand je me repens, je découvre que je suis pécheur, que j'ai besoin de demander pardon pour mes péchés, et en même temps de découvrir la grâce de Dieu qui me sauve de mon péché. Et en attendant de profiter ou de goûter cet avenir glorieux, sans le toucher, on peut déjà être reconnaissant aussi de ce que Dieu a fait pour nous. J'ai dit, on ne mérite absolument rien. Et franchement, ne pas vivre en étant reconnaissant, c'est quelque part bafouer le sacrifice de Jésus-Christ. C'est dire, c'est pas grand-chose. C'est énorme, en fait, pour la vie d'un chrétien. Et un troisième constat, ou une mission, on pourrait dire, annoncer l'évangile. On a vu que l'eschatologie, ça fascine le monde, d'une manière ou d'une autre, d'une manière fausse comme d'une manière juste. Mais ce monde va vers sa perte. On l'a dit, Dieu nous a laissés comme ambassadeurs pour annoncer la réconciliation. Et si je suis un chrétien dans mon coin qui vit pépère, moi je suis sauvé, c'est pas du tout ce que Dieu attend. Alors, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur veut qu'on annonce l'évangile. Il veut qu'on aille vers les gens dans la mesure où ils veulent ou pas, mais leur annoncer la bonne nouvelle. Vous imaginez, si on n'annonçait plus la bonne nouvelle, ça serait triste. Bon, Dieu peut le faire d'une autre manière, on est d'accord. Mais c'est notre rôle, c'est notre responsabilité d'aller vers ces hommes et de leur annoncer la bonne nouvelle. Puis dans Apocalypse 22:7, hein, il est dit: « En attendant, consolons-nous avec ces paroles. » Il dit: « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et pour terminer, celui qui atteste ces choses dit: « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur. » C'est l'Église qui répond: « Viens, Seigneur Jésus. » Voilà pour cette eschatologie. Hein, il y a beaucoup de choses encore à apprendre. J'espère que vous avez un petit peu brossé, mais vous avez des bases, et puis ben, comme c'est rien, allez voir, vérifiez, prenez le temps, c'est tellement important dans notre vie. On va prier pour terminer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, et tu nous l'as confiée, tu nous l'as donnée pour que nous puissions entendre ton message, certes celui de la bonne nouvelle, de la grâce, oui, mais tu as énormément d'autres choses à nous apprendre sur ta personne, sur ton œuvre, sur ton œuvre tout particulièrement dans l'avenir et dans cette fin des temps. Seigneur, à regarder ce monde, nous déprimons un peu de voir tant de gens qui te refusent, mais en nous regardant, nous voyons aussi que d'une manière ou d'une autre, tu as saisi notre vie, nous a permis de saisir cette grâce, et cela nous réjouit de nous dire que, ben, pourquoi pas, d'autres encore vont intégrer cette Église et vont profiter de ta grâce. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tout ce qui nous attend, cet avenir glorieux, nous le méritions absolument pas. Nous ne pouvons pas le dire juste pour le dire, mais c'est extrêmement vrai dans notre cœur. Et nous voulons t'en être reconnaissants, nous humilier devant toi, Seigneur. Merci pour cet avenir glorieux. Merci pour cette nouvelle terre. Merci pour pouvoir vivre face à face avec toi. Merci pour pouvoir t'adorer enfin de façon absolument parfaite, Seigneur. Façon juste aussi, et merci tout simplement de pouvoir partager ton éternité. Tu es plein de compassion, plein d'amour pour chacun d'entre nous, et nous puissions annoncer ce message à bien d'autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.